Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Il est 10h13, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous qui avez peut-être fait partie de ces 3,5 millions de visiteurs par an à vous rendre à quelques kilomètres de Naples sur ce site archéologique devenu un élément de notre histoire européenne, Pompéi. Le Figaro Histoire publie un bimestriel passionnant sur le sujet et nous entraîne à la découverte des nouveaux trésors de cette cité engloutie en l'an 76 de notre ère par la lave du Vésuve. Des habitants soufflés, pétrifiés par la force de l'éruption, les archéologues n'ont eu de cesse de travailler sur cette antiquité vivante. Les fouilles se poursuivent et on en découvre des vestiges magnifiques de nouveau. Et si vous êtes passionné d'histoire, vous n'hésitez pas à nous appeler, Julie, parce que les témoignages vous nourriront. On a besoin aussi de vos yeux pour lire ces images.
39, 21, 50 centimes la minute. C'était 79, hein, Pompéi.
J'ai dit
76.
D'accord, voilà, autant pour moi.
Rectifie.
À tout de suite.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et notre invité en studio, Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire, les nouveaux trésors de Pompéi. Bonjour Geoffroy.
Bonjour Wendy.
Il se trouve que vous revenez de Pompéi, vous y avez passé quelques jours, il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'on découvre et qu'est-ce qu'on voit lorsque l'on pose le pied sur cette cité ?
Alors on découvre une ville extraordinaire, mais qui donne finalement un visage assez paradoxal, qui donne à la fois un visage de très grande fixité, puisqu'on a ce sentiment très vif, très physique presque, que la ville a été effectivement figée par la lave du volcan en l'an 79. Et en même temps, donc on se promène au fil des rues en constatant ce phénomène sur la place publique, dans les maisons, dans les rues. Et en même temps, dès qu'on parle avec les archéologues, ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire, on se rend compte qu'en réalité, c'est une ville qui, entre le moment où elle était recouverte par le Vésuve et les premières fouilles qui ont commencé en 1748, avait déjà été très explorée par des pillards, par des fouilles clandestines, et également dès le lendemain de l'éruption en 79, par l'empereur Titus qui avait donné l'ordre de prélever les éléments précieux, notamment les marbres, les plaquages de marbre, des zones publiques, notamment sur le Forum. Donc c'est une ville figée, et qui en fait avait déjà un petit peu bougé.
Mais c'était une cité opulente, parce que lorsque l'on découvre aujourd'hui ce que l'on découvre dans les villas, des fresques rutilantes, c'est absolument magnifique. Qui vivait à Pompéi en 79 ?
Alors Pompéi, c'est une petite ville de la côte campanienne d'à peu près 15 000 habitants. C'est une petite ville prospère qui vit du commerce du garum, c'est-à-dire la sauce de poisson salé,
dont
on pense que le plus proche équivalent est le Nguyen Mam vietnamien, tout simplement.
Incroyable, oui.
Et qui vit également d'une production viticole. On y fait un vin bon marché, et puis également de cultures céréalières, parce que les pentes du Vésuve sont extrêmement fertiles. Donc c'est une ville assez opulente, qui est une ville qui a le statut de colonie romaine depuis 80 avant Jésus-Christ, mais c'est une ville qui a été fondée au 7e avant Jésus-Christ. Et au moment de l'éruption en 79, c'est une petite ville vraiment provinciale de bon niveau, et dont l'art de vivre vraiment se découvre, et c'est tout l'avantage et l'intérêt extraordinaire de Pompéi, sur tous les murs de la ville.
Et vous commencez avec ces mots dans ce dossier. Aucune autre cité de l'Antiquité classique n'a jamais transmis un tel trésor à la postérité. C'est exact, les nouvelles fouilles récentes ont permis encore de grandes découvertes, et ça c'est assez impressionnant, quasiment 2000 ans après cette éruption.
Oui, parce qu'il faut savoir que Pompéi, ce sont 66 hectares à peu près de superficie, et les deux tiers ont été fouillés. Donc il reste un tiers à fouiller. Et en 2010, il y a eu un certain nombre d'événements assez tristes, notamment l'écroulement de la maison des gladiateurs. Et on s'est rendu compte une fois de plus que l'enjeu principal, c'est le point de vue des archéologues, et ils ont entièrement raison, c'est de conserver l'existant.
C'est ça, de maintenir ce bâti qu'on a exhumé.
Voilà, les deux tiers restants, même si la plupart des peintures ont été mises déposées au musée archéologique de Naples, les murs eux-mêmes des maisons, l'aspect de la ville doit être conservé. Donc plus on fouille, plus on prend le risque de dégrader si on ne peut pas justement avoir l'argent pour maintenir en état, ouvrir les maisons aux visiteurs, etc. Donc dans le tiers restant, on s'est dit qu'on n'allait pas d'abord fouiller, on allait mettre en sécurité la zone, le tiers restant.
D'accord.
Parce que la couche volcanique appuie en fait sur ces parties non fouillées dans lesquelles on a simplement fait tracer les rues. Et donc vers ce vide, la couche volcanique appuie insensiblement en menaçant d'emporter tous les bâtiments qui sont encore en dessous.
Qui fait combien de mètres la couche volcanique à
Elle
certains
peut faire
endroits
jusqu'à 6 mètres à certains endroits, mètres. Donc c'est très, très impressionnant.
Et 6 mètres sous cette couche volcanique, on trouve encore aujourd'hui trésors magnifiques et intacts pour certains.
On trouve du bâti, un mosaïque. Bâti absolument extraordinaire. On retrouve cette diversité de l'habitat l'habitat antique absolument incroyable qui fait que même un boulanger un tout petit peu prospère a une maison à fresques à colonnes chez lui, un sénateur local évidemment encore plus. C'est tout ce qu'on trouve là-dessous.
Et ce qui est incroyable, c'est que vous arrivez à reconstituer la manière dont on a vécu jusqu'en 79 à Pompéi, avant l'explosion de ce Vésuve qui va surprendre les habitants pétrifiés par les gaz évaporés, mais aussi par la lave. On va revenir parce que ce sont des scènes qui nous ont frappés et là qui pour le coup traversent aussi l'histoire. A tout de suite avec vous Geoffroy Caillet du Figaro Histoire et vous Julie qui avez aussi visité Pompéi. A tout de suite.
Il y a très longtemps.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Les nouveaux trésors de Pompéi, on en parle jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard et ses invités. C'est au sommaire du Figaro Histoire, hors-série de ce bimestriel juin-juillet.
Une histoire qui nous a souvent traumatisés. Lorsqu'enfant, nous avons lu le récit glaçant du drame relayé par le baron Edward Bulwer Lytton. J'avais oublié son nom, mais je me souviens de ce livre, Les derniers jours de Pompéi, inspiré par un tableau qu'il avait vu exposé à Milan, retraçant cette scène. On est au 19e siècle et pratiquement, pour l'histoire contemporaine, il remet au goût du jour ce drame de l'an 79 après Jésus-Christ, Geoffroy Caillet.
Oui, en fait, il met en mots finalement la redécouverte de Pompéi à partir de 1748. En 1748, on se rend compte, depuis quelques siècles, on se rendait compte qu'il y avait des vestiges antiques dans cette zone qu'on n'appelait plus que la colline de Civilta, sans savoir que c'était Pompéi.
Qui était donc une colline, avec 6 mètres dessous.
Des dunes, en fait, voilà. Des dunes rases, grises. Mm. Et Charles III, futur roi d'Espagne, roi de Naples à cette époque, en 1748, lance des fouilles d'envergure. Et en 1763, quelques années après, on trouve sur le site qu'on commence à fouiller une plaque où Pompéi est mentionné. Et là, on comprend, oui, c'est bien le site de Pompéi. Donc, on fouille Pompéi d'un côté, Herculanum de l'autre. Et
Herculanum, c'est quoi? C'est une ville à côté qui a
Herculanum, c'est une ville voisine qui a été ensevelie de la même façon, mais elle, sous une couche de boue, jusqu'à 20 mètres de boue sur la ville. Et tout de suite, l'engouement est très fort pour ces cités vésuviennes, puisqu'en réalité, il y en a plusieurs, on en parlera peut-être. Et Bulwer Lytton, en 1834, écrit un roman qui cristallise dans une trame littéraire cet engouement extraordinaire pour cette cité morte qui se réveille.
Oui, et pourquoi nous n'avons eu un intérêt farouche que pour Pompéi, alors qu'il y a deux autres, en effet, villes englouties, cités vésuviennes, parce que les fouilles sont rendues trop difficiles pour ces deux villes.
Pense que Pompéi a un caractère plus emblématique parce qu'elle est plus vaste. D'accord. Il y a à peu près tous les équipements qui existaient dans une ville romaine. Pour Herculanum, une partie de la ville moderne a été construite sur le site. Donc il y a toute une partie d'Herculanum qui n'est pas explorable. Mmh. C'est une des raisons pour lesquelles Pompéi a la préférence. Mais Herculanum est une ville extraordinaire et si on veut faire un tour des cités vésuviennes, il faut aller visiter bien sûr Pompéi, Herculanum, mais également la villa de Poppée à Oplonte, qui est une villa particulière pour le coup, qui est en dehors de la ville. Stabi également, où il y a deux villas magnifiques, la villa Ariana et la villa San Marco, qui sont vraiment dans un état de conservation exceptionnel.
Et quand on feuillette le Figaro Histoire, qui dédie des pages très documentées aux nouveaux trésors de Pompéi, on voit notamment, côté du directeur du parc archéologique de Pompéi, Massimo Osanna, des scènes de vie, des fresques animalières intactes. Hein, c'est absolument magnifique, ce tableau, cette fresque dépeignant les amours de Léda avec Jupiter, transformée en cygne, qui a été trouvée, mais là, il y a quelques semaines seulement, exhumée. Et ça, ce sont des trésor inestimable.
Oui, c'est absolument extraordinaire. Ils sont en train de... La partie fouille du projet de mise en sécurité se termine ces jours-ci. Et la mise en sécurité consiste à aplanir, à terrasser la couche de lave de façon à ce qu'elle n'appuie pas trop, comme je le disais, sur les bâtiments. Oui. Moyennant quoi, ils ont trouvé en terrassant ces maisons couvertes de fresques extraordinaires et d'une couleur absolument intacte. On a l'impression que les peintures sortent vivantes du tombeau.
Mais il y a les mêmes fresques dans les autres villes. Il y a le même décor.
Ce sont des fresques tout à fait comparables.
À Herculanum et ailleurs, oui.
Oui, on trouve les dieux de la cité. Alors, Pompéi était placé sous le patronage particulier de Vénus, donc on trouve de nombreuses représentations de Vénus, mais il y en a également dans une proportion moindre à Herculanum. Le thème de Ariane, abandonné par Thésée, est extrêmement courant. Et en revanche, on a trouvé dans les nouvelles fouilles des représentations absolument inédites dans l'art antique. Mmh. Là, ce ne sont pas des fresques, ce sont des mosaïques. Et on a retrouvé en particulier une mosaïque qui représente le chasseur Orion, qui a été transformé en constellation par la déesse Diane. Et cet exemple-là, il est à peu près unique dans toute l'histoire de l'art antique. On l'a retrouvé il y a 6 mois à Pompéi.
Or, il est possible que beaucoup de trésors, de statues, d'objets aient été dérobés. Au 79, il y a ce drame. Quasiment au lendemain du drame, l'empereur Titus envoie une commission d'enquête. Et là, on a à la fois des gens qui sont censés préserver ces trésors, mais aussi des voleurs. Et probablement beaucoup de choses dérobées à ce moment-là, qu'on ne trouvera plus, en tout cas à Pompéi.
Oui, il y a eu des vols d'artefacts, de mobilier, ce qui explique qu'on ait trouvé assez peu de mobilier dans les maisons. En revanche, les trésors muraux, la partie peinture, la partie fresque est intacte.
Et puis au gré des siècles, la cité a été fouillée parce qu'on allait s'approvisionner en matériaux de pierre ponce, de lave, qui était très important aussi pour la construction.
Oui, parce qu'on parlera peut-être de l'éruption proprement dite, mais le premier effet de l'éruption, ça a été cette pluie de pierre ponce, un matériau extrêmement léger, extrêmement commode pour remblayer, qui a tué énormément d'habitants, comme des coups de mitraillette. Tout simplement. Et effectivement, les pillards se sont d'abord servis en matériaux de construction dans cette lave accumulée sur la ville.
Julie, vous avez une question ?
Alors, tous les décors de fresques, vous disiez que la plupart sont conservés au musée de Naples. Alors, qu'est-ce qui reste sur place ?
Alors, sur place...
Sur ces murs vides de fresques.
Alors, il reste heureusement beaucoup de fresques intéressantes. Les principales, effectivement, les plus connues sont celles qu'on voit à Naples. In situ, on a laissé les fresques qu'on pouvait protéger, notamment parce qu'on a pu remettre des toits sur un certain nombre de maisons. Il est évident, il faut le dire aux visiteurs, que toutes les structures horizontales, dans le cas d'une éruption, dans le cas d'un tremblement de terre, c'est ce qui disparaît en premier. Donc les toits, les plafonds, tout ça a disparu. Et quand vous voyez les plafonds à Pompéi, c'est qu'ils ont été refaits toutes pièces pour abriter les fresques qu'on a pu
laisser. Oui, parce que quand on visite le site, il y a des fresques encore.
Il y a des fresques encore, heureusement, bien sûr.
Peur sur la ville, que s'est-il passé ce 24 octobre 79 en fin de matinée? L'explosion du Vésuve, ces premiers coups de pierre ponce qui tombent sur les habitants, qui en mitraillent certains. Et puis ces corps de Pompéiens qu'on retrouve recroquevillés, calcinés, saisis par les gaz toxiques. On a des moulages en plâtre qui sont saisissants de vérité, de cruauté, qui nous replongent dans ce drame qui tuera 1500 habitants prisonniers par les effets du Vésuve. A tout de suite sur Europe avec le partenariat Figaro Histoire qui vous permet d'en savoir davantage sur les trésors de Pompéi. On est ensemble jusqu'à 11h.
Le tour de la question sur les nouveaux trésors de Pompéi à retrouver dans le hors-série Le Figaro Histoire de ce mois de juin-juillet. Alors, il y a à l'intérieur, dans ces pages du Figaro Histoire, tout le récit de l'éruption et de ses conséquences.
Ah oui, c'est incroyable.
Alors, on en est à 11h midi, puisque ça s'est passé en fin de matinée, en octobre 79. Soudain se fit entendre un immense craquement, comme si les montagnes s'écroulaient. Et d'abord, d'énormes roches furent projetées aussi haut que le sommet. Sommet du Vésuve, j'imagine. Sous la pression magmatique, le bouchon de lave vient d'exploser, libérant un panache volcanique de plusieurs dizaines de kilomètres de hauteur. Chacun organise sa fuite, soit en abandonnant tout, soit refusant de quitter ses biens les plus précieux, en tentant de les sauver. L'un des boulangers, surpris par la catastrophe, n'a pas le temps de retirer ses miches du four. On les retrouvera calcinées, mais intactes. Périssent avec lui 4 mulets et 3 ânes.
Ouais, c'est ça c'est qui est incroyable. Merci Julie. Ce sont ces scènes de la vie quotidienne qui ont été quasiment figées dans l'instant, dans la folie de l'instant. Ces miches de pain, vous imaginez, on a retrouvé du pain calciné. On est dans la vie. Dans le plus simple apparat. C'est très, très émouvant, ça, Geoffroy Caillet.
Oui, on a, de ce point de vue-là, le caractère figé de la ville se justifie entièrement, puisqu'on a des gens qui ont dû interrompre, sous le coup de cette catastrophe absolument terrible, qui a commencé par une pluie de pierres ponces, leurs activités quotidiennes. Et ça va des choses les plus simples, les plus observables, comme ce boulanger et son pain au four, aux choses les plus presque burlesque, si n'était le caractère tragique de l'incident, comme cette femme que les historiens pensent être une femme de mauvaise vie, une gourgandine, comme on disait, qui est allée voir parer de ses plus beaux bijoux la caserne des gladiateurs. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les gladiateurs morts dans leur caserne avec une femme revêtue de ses plus beaux bijoux au milieu d'eux. On pense que c'était l'amant d'un des gladiateurs.
Ah oui, il y a aussi ces corps de femmes, d'enfants retrouvés par les archéologues, asphyxiés ou morts sous les décombres, barricadés dans une chambre qui tentait d'échapper à l'éruption. Ce moulage d'un corps recroquevillé, ce chien aussi retrouvé sur le dos, les pattes en l'air, comme pétrifié. Enfin, on a eu des vestiges. C'est ce qui nous interroge aussi sur le côté morbide aussi qu'on peut voir et ressentir quand on trouve ce qui est sous la roche est un corps humain quand même.
Oui, et comment
on l'expose.
Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui, puisqu'il y a à peine 2 mois, lors des fouilles en cours, l'archéologue Francesco Muscolino, que j'ai rencontré sur le site de Pompéi, me disait qu'ils avaient encore trouvé 8 corps. 8 corps dans une pièce, des corps de femmes et d'enfants qui probablement s'étaient barricadés dans la pièce en espérant pouvoir échapper à l'éruption, qui eux n'ont pas été touchés par les pierres ponces, mais par les gaz toxiques émanant découlé pyroclastique.
Donc asphyxié.
D'autres sont morts sous l'écroulement de leur toit, lequel toit avait cédé déjà sous la pluie de pierre ponce. Et puis il y en a d'autres qui ont été écrasés par la chute des bâtiments publics. C'est-à-dire qu'en sortant de chez eux, ceux-là ont réussi à ouvrir la porte malgré l'accumulation des pierres ponces et des cendres. Mais ils sont passés sous la colonnade du forum qui s'est écroulée à ce moment-là et ils ont été broyés par les blocs.
Et quand on retrouve ces corps humains, ces corps d'animaux, ces objets, ils sont comme fossilisés en fait. Ils sont recouverts d'une couche de
Alors
quoi,
ça, c'est une idée absolument géniale. C'est une idée absolument géniale du conservateur Fiorelli dans les années 1860, c'est-à-dire juste après l'unité de l'Italie, qui était un conservateur hors pair et qui a eu l'idée effectivement dans la cavité laissée par les corps qui s'étaient décomposés, tout ça sous la lave, d'injecter du plâtre de façon à faire des moulages. Ensuite, il suffisait d'ouvrir la gangue de lave solidifiée pour récupérer le moulage intact. Et c'est pour ça qu'on a ces moulages extrêmement saisissants. Et c'est une technique donc assez ancienne, mais qui est absolument convaincante, hein, puisque c'est elle qui nous a conservé, saisie dans l'instant même où la mort les a surpris, les Pompéiens de l'éruption.
Comment on arrive à avoir, puisque Julie en lisait un extrait, un récit quasiment heure par heure, enfin minute après minute de cet événement? Sur quel témoignage on se base aujourd'hui, 2000 ans après quasiment?
Alors on a un témoignage littéraire absolument extraordinaire, qui est celui de Pline le Jeune, neveu de Pline l'Ancien, qui lui est occupé d'aller sauver les Pompéiens avec la flotte de Misène. Et Pline le Jeune écrit plusieurs années après l'événement pour son ami Tacite, l'historien. Il lui fournit des matériaux pour écrire l'histoire. Il lui dit voilà comment ça s'est passé. Son récit est assez précis, donc on a des éléments horaires plutôt convaincants. Et puis par ailleurs, les vulcanologues ont travaillé sur la catastrophe de Pompéi. Et évidemment, compte tenu de la hauteur du volcan, de la pente du volcan, la proximité de la ville par rapport au volcan, au Vésuve, ils ont pu établir à peu près le déroulé exact des événements.
Avec des images, avec des récits, avec de nouveaux trésors dévoilés. Je voudrais que vous réécoutiez un récit fait par Sandrine Prioul il y a 2 ans maintenant, lorsque l'on retrouve les fameux amants de Pompéi et qu'on en sait davantage grâce à leur ADN.
Parmi les milliers de victimes de l'éruption du Vésuve, ce sont les plus célèbres, ceux que les archéologues ont surnommés les amants de Pompéi. Des vestiges quasiment intacts, figures du romantisme sous l'Antiquité, 2 personnes lovées l'une contre l'autre, tête blottie contre poitrine, se serrant dans les bras. Assurément, un homme et une femme avaient voulu croire l'Italie mussolinienne. Mais 2000 ans plus tard, quelques maigres traces d'ADN recueillies sur ces silhouettes viennent éclairer l'histoire. Ces 2 personnes surprises par le volcan n'étaient pas de la même famille. Elles avaient 18 et 20 ans. Des amants qui, selon les chercheurs en génétique, étaient donc bel et bien 2 hommes.
Voilà, par exemple, la beauté de l'histoire exhumée. Je crois qu'il y a une statue qui a beaucoup fait parler.
Oui, d'ailleurs, c'est une scène qu'on voit, alors à l'époque, c'est encore un homme et une femme, dans Voyage en Italie de Rossellini avec Ingrid Bergman. Ingrid Bergman avec son mari, c'est un couple en instance de divorce, qui se promène dans Pompéi et qui, à la vue de ses amants réunis dans la mort, se met à rêver de l'amour éternel et le couple va se réconcilier après. Donc vous voyez, comme une sorte d'effet de Pompéi sur la postérité à tous égards,
hein,
non seulement par l'émerveillement de l'art, mais aussi par... par cet aspect humain que la ville nous a conservé.
10 films sont passés par là, vous faites bien de parler de celui-ci, parce que Pompéi n'a cessé aussi d'inspirer le cinéma. Il faut dire que l'ampleur de la catastrophe était telle. On parle à peu près de 2000 morts pétrifiés, pris par la lave et sur 15 000 habitants.
Oui, 2000 sur 15 000, ce qui, on pourrait dire, n'est pas énorme. Enfin, toute la ville n'a pas succombé, mais pour une raison simple, c'est qu'en réalité, en 62, c'est-à-dire 16 ans avant l'éruption, le 62-63, le territoire campanien avait été agité par un tremblement de terre. Donc beaucoup de bâtiments étaient en réfection et les Pompéiens se méfiaient un petit peu de leur territoire. Et également, le Vésuve avait émis des fumerolles dans les mois qui précédaient. Et on pense que dans les heures qui ont précédé vraiment l'explosion du magma volcanique, beaucoup de Pompéiens avaient commencé à fuir.
Et on va revenir sur cette fuite et ce sauvetage qui a été opéré par le fameux Pline l'Ancien. C'est au cœur d'une exposition au musée de la Romanité à Nîmes jusqu'au 6 octobre. L'exposition Pompéi, un récit oublié. Elle va nous en parler, Lucia Carfagna, avec nous en ligne dans un instant sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Un Figaro hors série vient de sortir qui raconte heure par heure le récit passionnant de l'éruption du Vésuve et de la ville de Pompéi en 79. On est replongé dans une enquête archéologique autour des mystères qui continuent de planer. Et puis il y a de nouvelles fouilles, bien sûr. Toute une campagne de fouilles depuis 2017 qui a permis de révéler des tas de choses nouvelles à découvrir dans ce hors-série du Figaro.
C'est passionnant. Hors-série, 8,90€, disponible en kiosque et sur le Figaro Store. Geoffroy Caillet est avec nous, rédacteur en chef du Figaro Histoire. Et j'accueille dans cet échange Lucia Carfagna. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes guide conférencière à Nîmes pour l'exposition Pompéi, un récit oublié. Nous sommes avec vous au Musée de la Romanité, exposition jusqu'au mois d'octobre, qui tente de revivre ce drame et surtout la manière dont les populations alentours le vivent et vont tenter, Lucia, de porter secours à ses habitants qui cherchaient évidemment, eux, à fuir. Vous avez vraiment décidé de thématiser cette exposition.
Voilà, donc Pompéi est forcément un thème célèbre, mais ici dans notre exposition Pompéi, un récit oublié, on veut vraiment focaliser l'attention sur la tentative de sauvetage de la population de la baie de Naples de la part de Pline l'Ancien, qui est à ce moment-là l'amiral de la flotte de Misène.
Et comment ça se passe? Alors lui, il observe le phénomène, il voit que le Vésuve est en éruption et qu'un drame est en train de se passer sous ses yeux.
Voilà, tout à fait. Donc, l'après-midi, Pline est dans son bureau, il est en train de travailler. Sa sœur Plinia lui montre la colonne de fumée qui se lève du Vésuve. Misène est juste en face du Vésuve, dans la baie de Naples, donc il peut l'observer très bien.
Oui.
Comme il est un savant, il veut partir de suite, il arme une liburne, donc une embarcation pour... le contrôle, on va dire, une embarcation très rapide. Il veut vérifier de façon scientifique, hein, parce qu'il est poussé par une énorme curiosité scientifique.
Mm-hmm.
Sauf que pendant le temps qu'il se prépare, il reçoit un message de son amie Rectina, qui habite, elle, juste au pied du Vésuve, comme quoi elle peut pas s'enfuir. Et donc, elle demande l'aide de Pline l'Ancien. Et c'est là que Pline l'Ancien décide finalement de armer 12 quadrirèmes, donc de partir avec ses marins pour essayer de sauver la population de la baie de Naples.
Donc, il apparaît, ces 12 navires. Le message, il le reçoit comment? Parce qu'on n'a pas les moyens de communication de l'époque, Lucia?
Voilà, forcément, Rectina, elle peut pas envoyer un messager, hein, parce que si un messager pouvait partir à pied, elle aurait pu s'échapper aussi.
Oui.
Donc, probablement, elle arrive à envoyer un message par un sémaphore. C'est-à-dire une tour avec laquelle on pouvait envoyer des signaux lumineux.
Ah, des signaux d'alerte, voilà. Et c'est un épisode que vous considérez aujourd'hui, c'est ça qui est passionnant dans cette exposition à Nîmes, comme le premier cas documenté, en tout cas de sauvetage de civils de la part d'une force militaire. Hein. On a cette flotte qui arrive et qui va tenter de récupérer ces hommes et ces femmes qui sont sur la baie, enfin sur le littoral, et qui tentent de fuir aux flammes et aux laves.
Tout à fait. Donc, c'est le premier cas documenté, si on veut, de protection civile.
Oui. Il y a une tragédie autour de Pline l'Ancien qui va diligenter cette opération. C'est que lui était un témoin direct du drame, mais qu'il va périr aussi dans cette opération.
Tout à fait, parce qu'en fait, quand il part avec ses 12 quadrigrammes, il essaye de rejoindre Herculanum, sauf qu'il ne peut pas parce qu'il y a un petit tsunami, en plus il y a un changement de direction des vents, donc il est obligé de changer de cap et de s'y diriger à Stabi. Il passe la nuit à Stabi chez son ami Pomponianus, donc en même temps il essaye un peu de rassurer son ami qui est vraiment effrayé. Et le lendemain, comme il y a une nuée ardente qui se rapproche de la ville de Stabi, toute la population essaye de s'échapper sur la plage pour éviter de respirer les cendres, les gaz toxiques.
Oui, oui.
Sauf que Pline, l'ancien, est asthmatique. Et du coup, il décède étouffé sur la plage de Stabi.
C'est incroyable. Et là encore, c'est émouvant. Et ce qui est fou, c'est que vous en parliez comme d'un événement qui a eu lieu il y a quelques années, alors qu'on est en l'an 79 après Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a presque 2000 ans. Et on est toujours sidéré, Lucia, de voir combien on peut être précis aussi dans le témoignage que vous apportez. Tout ce que vous nous dites là est certifié, évidemment.
Oui, en fait, notre source principale est Pline le Jeune, donc le neveu de Pline l'Ancien, qui écrit des lettres à Tacite, mais il écrit ses lettres une trentaine d'années après les faits de Pompéi. Et donc, il fait un récit vraiment très précis, et même les volcanologues, par exemple, ils ont réussi à reconstruire un peu les étapes de l'éruption grâce à son récit qui est extrêmement précis.
Ah oui, mais c'est très fort. Alors évidemment, dans votre exposition en immersion, on trouve beaucoup d'objets, de trésors qui permettent d'en savoir mieux, de nous plonger dans le récit que vous venez de nous faire en quelques instants. Lucia Carfagna, guide conférencière pour cette exposition qu'on vous recommande à Nîmes. Vous avez le temps, c'est jusqu'au 6 octobre. Pompéi, un récit oublié, et on prolonge cette conversation sur Pompéi et ses nouveaux trésors avec des trésors et des découvertes encore mises en lumière. Geoffroy Caillet, on en parle juste après la pause. Merci Lucia.
Le tour de la question sur les derniers jours de Pompéi, ville ensevelie par l'éruption du Vésuve en l'an 79 dans la baie de Naples. Wendy Bouchard.
Oui, Julie, avec Geoffroy Caillet, rédacteur en chef du Figaro Histoire. On s'intéresse à la dernière campagne de fouilles menée depuis 2 ans maintenant. Et un nouveau chapitre qui s'ouvre. On en apprend chaque jour quasiment davantage grâce au travail des archéologues, notamment, Geoffroy, sur la datation. Alors, il faut être très précis quand on étudie l'histoire. Jusqu'à présent, on pensait que cette éruption, cette explosion du Vésuve avait eu lieu en août 79. Et grâce à ces dernières fouilles, on apprend que ça a eu lieu en octobre 79. On est certain de cette datation nouvelle ?
Maintenant, on en est vraiment certain. La date du 24 août 79 avait été donnée par le manuscrit le plus ancien dont on disposait de la lettre de Pline l'Ancien, de Pline le Jeune, pardon,
donc,
qui écrit
Lucia, oui.
À Tacite. C'était un manuscrit du Xe siècle. D'autres manuscrits plus récents donnaient la date du 24 octobre. Alors, on s'est dit de façon assez naturelle que la leçon, comme on dit en philologie, la plus ancienne, devait être la meilleure.
Oui.
Et en réalité, il y avait un contraste absolu entre cette idée et les trouvailles des archéologues qui, justement, à Pompéi, avaient découvert des fruits d'automne dans les maisons, des braseros, se chauffer à Pompéi en août, c'est quand même curieux. On est sur la côte napolitaine, il fait bon. Le climat devait être à peu près le même quand même à l'époque. Et il y avait aussi du vin déjà mis dans les jarres avec le cachet de cire apposé. On était après les vendanges, évidemment. Donc il y avait un contraste absolu entre les deux. 24 août, 24 octobre. Et depuis le XVIIIe siècle, on se disait, mais non, ça... Il y a plus de chances pour que ça soit en automne, mais on en était là. Et puis, il y a 6 mois, à Pompéi, dans le cadre des fouilles réalisées dans le cadre du programme de mise en sécurité, les archéologues ont trouvé une inscription, un graffiti au charbon sur un mur, qui est une sorte de délation, de cours de récréation, qui dit « Tartempion, c'est goinfré le 17 octobre ». Voilà, quelqu'un qui dénonce son petit camarade en disant « il a trop mangé, il a fait bonbons
ouais. ».
Le 17 octobre. Le carbone est un matériau extrêmement fragile qui n'aurait évidemment pas résisté d'une année à l'autre. Il aurait dû être effacé en quelques semaines. 17 octobre. On a compris qu'il devait précéder d'une semaine à peine l'éruption du Vésuve, le 24 octobre, et que c'est donc bien la date du 24 octobre qui devait être retenue. Vous voyez, à la fois à cause de la date et de la légèreté du matériau, parce que si ça avait été gravé dans le marbre, au sens propre du terme, on aurait pu dire, mais c'est une inscription qui a déjà quelques années, donc il n'est pas question de penser au 24 octobre.
D'où les nouveaux trésors.
D'où les nouveaux trésors, c'est sans doute la dernière inscription qui a été écrite, et en tout cas dans l'état actuel des choses, retrouvée à Pompéi à cette date.
Pompéi qui est devenu un parc archéologique que vous pouvez visiter, hein, vous y êtes allé. Julie, oui, vous vous souvenez un peu de ces images fortes quand on arrive justement ?
On se souvient de la couleur rouge surtout.
oui. Et dominante. Hein,
le rouge pompéien qui est exceptionnel.
Sur les fresques.
Sur les fresques, voilà. Murales, oui. Oui.
3,5 millions de visiteurs, on le disait, parce qu'il y a cet engouement aussi mondial. Le cinéma a fait beaucoup aussi pour la réputation de cette ville, une réputation malheureuse, mais quand même, tous les gens du monde entier s'y pressent.
Oui, exactement. Et c'est sûr que tout a été fait pour valoriser Pompéi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est conserver ce qui est exhumé. D'où la hâte très relative des archéologues à continuer à fouiller le tiers restant. Parce que dès qu'on exhume quelque chose, il faut avoir les moyens de le conserver. Et là, la subvention de 102 millions d'euros qui a été versée par la Commission européenne et par l'État italien en 2012 pour la mise en sécurité, qui comprend aussi quelques fouilles, ne permet pas de mettre au jour le tiers entier restant à découvrir. Et parce que voilà, dès qu'on exhume, il faut des gens pour conserver, il faut des conservateurs qui s'occupent des ruines, il faut des gardiens pour faire visiter, parce que conserver sans pouvoir montrer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais. Et je trouve qu'il y a une certaine sagesse là-dedans, parce que c'est aussi l'idée que Pompéi nous a été transmise par les générations passées, et nous aussi on a ce trésor à transmettre intact, avec encore une part à découvrir.
C'est ça, donc 250 ans de fouilles, ces trésors à sauvegarder d'abord, ces maisons à maintenir et d'autres trésors à découvrir. Il y a ce programme, Geoffroy Caillet, Pompéi Porta Nocera, qui fouille en ce moment un enclos funéraire. On tâche d'en savoir davantage aussi sur la manière dont la vie religieuse s'organisait par exemple à cette époque.
Oui, à l'entrée de la plupart des de Pompéi, il y a une nécropole, parce que les morts étaient enterrés en dehors de la ville. Et l'archéologue qui signe cet article dans le Figaro Histoire explique bien que, je trouve la formule magnifique, il dit « aucune palpitation de la vie antique n'échappe aujourd'hui aux archéologues ». Et en l'occurrence, dans ce cimetière, il a trouvé dans une même tombe un jeune homme et sa femme, dont l'inscription sur une pierre, sur leur tombeau, nous explique que l'une était l'esclave affranchie du père de l'autre. Donc on a vu, on voit des possibilités de mariage même entre homme libre et esclave affranchi. Oui. Et ça nous donne une idée de la sociologie de Pompéi qu'on n'avait peut-être pas, vous voyez.
Et pour les auditeurs qui nous rejoignent, j'aimerais que vous nous redisiez un mot de ces corps qu'on a retrouvés statufiés comme momifiés, parce que jusqu'à la lecture de ce Figaro Histoire, j'imaginais qu'en fait les corps étaient vraiment comme momifié, donc pétrifié, c'est ça, sous cette couche de lave et de pierre ponce. En réalité, c'est pas ça, c'est l'œuvre aujourd'hui d'un outil archéologique.
Oui, ce sont des statues de plâtre dont l'idée de moulage génial a été inventée dans les années 1860 par Fiorelli, le surintendant du site, et qui consiste simplement à injecter du plâtre dans la cavité laissée par les corps en décomposition sous la lave.
Donc en fait, on a la silhouette dans ces cavités, la silhouette de l'humain, de l'animal, de ce que vous voulez, et on injecte du plâtre pour faire
la structure. Parce qu'en réalité, la lave s'est réchauffée sur la structure des corps et a durci bien avant que le corps ne disparaisse.
Ouais. Voilà, donc elle n'a pas effondré le corps.
Elle n'a pas effondré le corps.
Et donc on a cette enveloppe.
On a cette enveloppe qui reste autour du corps.
Qui a laissé un vide.
Et
incroyable.
Le jour où les matières organiques se sont
décomposées,
on a pu injecter du plâtre. Ouais.
Et on retrouve encore des...
Il a suffi ensuite de démouler, de casser la gangue de lave pour récupérer le plâtre intact.
Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui.
Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui.
Voilà. C'est une idée géniale. Ah,
c'est une idée absolument fabuleuse, toute simple, mais absolument fabuleuse, qui fonctionne dans le cadre des nouvelles fouilles. Huit corps ont encore été trouvés de cette façon-là.
Merci beaucoup. Vous lisez le Figaro Histoire en kiosque depuis quelques jours. Les nouveaux trésors de Pompéi. Merci Geoffroy Caillet de nous en avoir dit davantage sur cet épisode très fort, émouvant. Jean-Julie, vous avez votre exemplaire. Hein,
oui, je le garde.
À demain, les amis. Beaucoup. Merci de votre fidélité.
C'était Wendy Bouchard et c'était le tour de la question avec laposte.fr/pro. La solution des pros pour gagner du temps. Plus besoin de se déplacer. Vous imprimez vos timbres depuis votre bureau.